une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
C'est un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Stéphanie Bascou, journaliste à 01net.com. Salut Stéphanie.
Salut Emmanuel.
Dans cet épisode, tu vas nous parler d'algorithmes, d'émotions et de magie.
Exactement. Alors pour commencer, je voulais vous raconter ce souvenir d'avant les années 2000, avant Internet, avant les écrans et surtout avant TikTok.
Salut les bambins. Aujourd'hui, je vais vous parler de la préhistoire.
J'ai 12 ans, on est en 1997 et j'adore passer une partie de mes étés dans une maison au fin fond des Corbières, celle de mes grands-parents. Imaginez une demeure un peu austère, emplie de tableaux de chasse et de portraits de mes ancêtres. Certains après-midi d'août particulièrement brûlants, je montais discrètement les 4 étages pour finir tout en haut dans le grenier. Je revois le parquet qui grince, la porte qui s'ouvre difficilement et ces pièces où mes grands-parents stockaient des vestiges de leur vie passée. Mais surtout, je revois les livres, une quantité incroyable de livres recouverts de poussière dont j'adorais découvrir les titres. Je me revois tourner les pages fines, sentir cette odeur de papier un peu renfermé et ces titres, Madame Bovary, Jamais sans ma fille, des Agatha Christie aussi, dans lesquels je plongeais des heures durant avant qu'on finisse par me chercher et par m'appeler. Qu'aurait pensé l'ado d'alors si elle avait plongé dans TikTok en avril 2023? Si en scrollant sur le réseau social, elle était tombée sur ça.
Ok BookTok, aujourd'hui on s'attaque à une petite vidéo de recommandation de livres one shot. Donc je vous ai fait la meilleure sélection possible, un seul tome et c'est plié, pas besoin d'acheter une saga de 58 tomes, on est parti parce que c'est un peu long.
Si à côté des book hauls, des présentations à la chaîne de livres lus pendant le mois, j'étais tombée sur ces vidéos courtes où les booktalkers, face cam, racontent l'émotion que procure un livre, pleurs et frissons à l'appui. Si j'avais visionné ces condensés de ce qu'une lecture pourrait vous procurer, des sentiments qui pourraient vous traverser avec en plus la possibilité de répondre, de commenter, de témoigner, de retrouver une communauté, c'est bien simple, je pense que l'ado de 1997 aurait adoré partager sur TikTok le choc d'une scène, l'horreur d'un destin. Elle aurait adoré faire de la lecture un plaisir partagé. Car le hashtag BookTok, la contraction de Book et de TikTok, est un véritable phénomène. Il a été vu en mars 2023 119 milliards de fois dans le monde entier. Derrière, c'est toute une communauté qui crée des vidéos courtes, souvent face cam, sur leur amour des livres. BookTok aurait rendu la lecture à nouveau cool, à des années-lumière de l'image des jeunes qui seraient avachis devant leurs écrans et qui considéreraient les livres comme un vestige des temps anciens. Et ces vidéos auraient une influence importante sur les ventes de livres. C'est ce que raconte l'éditeur du Chant d'Achille, l'adaptation de l'Iliade de Madeleine Miller. Ses ventes seraient passées de 20 000 à 2 millions après avoir été recommandées par des booktalkers.
Ça fait plaisir.
Même topo pour Tout sur nous de Stéphane Ribeiro, une série de tests de personnalité à faire en couple, qui a multiplié par 20 ses ventes après une vidéo. Et il en existerait des exemples à l'appel. C'est bien simple. TikTok, où sont 78% des 18-24 ans, aurait boosté une industrie du livre qui n'était pas au beau fixe. Alors je me suis demandé, TikTok a-t-il réellement changé les choses ou s'agit-il seulement d'un phénomène de surface? TikTok a-t-il sauvé les livres?
Alors Stéphanie, partons du commencement. À partir de quel moment TikTok a commencé à parler de livres?
Alors déjà, TikTok, c'est un réseau social de partage de vidéos courtes créé par une société chinoise, ByteDance. L'application est lancée en 2018 aux États-Unis et dès le départ, c'est un carton. Après avoir été cantonné aux vidéos de danse et de chats, le réseau se met à partager des recettes de cuisine, des tutos de beauté, mais aussi des conseils de lecture. On estime que la toute première fois où le hashtag BookTok est utilisé remonte à 2019. Ensuite, ce hashtag va être repris par une blogueuse littéraire aguerrie, Kate Jacobs, qui va le reprendre dans une de ses vidéos en 2020. Cette vidéo va devenir virale et le hashtag aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré son succès phénoménal, TikTok n'est pas le premier réseau social à avoir mis un pied dans le monde des livres. Et non, les influenceurs du livre, ces créateurs de contenu littéraire, ne sont pas du tout nés en 2020. TikTok n'a pas non plus inventé la prescription littéraire, le fait de donner une opinion sur la qualité d'un livre. C'est le digne héritier des blogs littéraires dans lesquels des passionnés de livres vont venir remplacer les critiques professionnelles. Ce sont sur YouTube les booktubeurs, sur Instagram les bookstagrammeurs. C'est ce que m'a expliqué Louis Villard. Il est professeur en communication à l'Université libre de Bruxelles et co-auteur des plateformes à la conquête des industries culturelles.
Dès le début du développement de l'Internet grand public, on a déjà des dispositifs de partage et d'échange autour de la lecture. Et il y a des effets de mode qui font qu'à un moment donné, certaines plateformes apparaissent, montent en puissance, se développent et puis sont supplantées par d'autres. Et tous les discours assez enthousiastes vis-à-vis de TikTok actuellement rappellent tout à fait les discours qui étaient tout aussi enthousiastes vis-à-vis des booktubeurs, les youtubeurs du livre, il y a de ça quelques années.
Mais il existe de grosses différences entre TikTok, avec son hashtag BookTok, et les autres réseaux sociaux. J'ai demandé à Louis Villard quelles étaient les particularités de TikTok et des booktokers.
Sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui se focalisent sur les émotions associées à la lecture de tel ou tel roman, avec des TikTokers qui vont se filmer en train de lire un livre et en train de finalement simuler des émotions qu'ils éprouvent pendant qu'ils lisent cet ouvrage. Et donc, la valeur du livre ici est vraiment liée à l'émotion que le livre est susceptible de provoquer. Une autre spécificité que je trouve intéressante, c'est la mise en scène de soi. On se monte chez soi, on se filme devant sa bibliothèque, dans son salon, dans son intérieur, voire dans son lit. On n'hésite pas à exposer son quotidien et à inscrire le livre et la lecture dans le quotidien. Autre élément important de mon point de vue, la dimension ludique. On joue beaucoup, beaucoup sur ces plateformes. Le livre est inséré dans des jeux. On joue la comédie, on fait des petits sketchs, mais on se lance des défis, on relève des challenges à travers des vidéos interposées.
Ce qui différencie aussi TikTok des autres réseaux sociaux, c'est son algorithme. Un algorithme qui vous connaîtrait mieux que vous-même. L'interface de TikTok permet à l'application de toujours savoir de manière très précise ce que vous êtes en train de regarder. Et comme les vidéos sont courtes, vous allez en voir beaucoup, ce qui va générer beaucoup d'informations. Contrairement au fil de Facebook où vos proches encombrent le flux d'actualité, ici, l'algorithme va vous mettre en relation avec des créateurs de contenu qui vont réellement vous divertir. J'ai demandé à Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie à l'INSEEC Grande École, s'il en savait un peu plus sur le fonctionnement de cet algorithme.
Personne, sauf les personnes qui travaillent chez TikTok, ne sait exactement comment fonctionne l'algorithme de TikTok. Il faut bien être clair là-dessus. Il y a une certaine opacité parce que l'algorithme de TikTok, finalement, c'est aussi son actif stratégique peut-être le plus précieux avec sa marque aujourd'hui. En revanche, on voit à peu près comment fonctionne l'expérience utilisateur de TikTok. L'idée initiale de ByteDance, c'était de dire qu'il y avait de la place sur Internet pour que des créateurs de contenu très courts puissent finalement proposer des formats de ce type-là. S'en est suivi une application finalement qui a très vite regorgé de contenu de durée qui peut être comprise entre 10 secondes et peut-être un peu plus d'une minute, qui s'enchaîne très rapidement les uns après les autres et qui finalement ont eu pour effet de rendre notamment une certaine partie de la population d'internautes la plus jeune très captive finalement. On a vu un taux d'engagement, c'est-à-dire le temps que l'on passe sur l'application sans déconnecter, a dépassé des scores qui étaient déjà très importants. Donc TikTok, c'est cette capacité finalement algorithmique de vous pousser à consommer toujours le contenu supplémentaire qui fait que vous allez rester très longtemps finalement connecté à votre écran. Et qui dit connecté longtemps à votre écran dit potentiellement très facilement monétisable. Et c'est là que TikTok devient un outil assez redoutable, à la fois en matière de monétisation, la partie économique quelque part de la force, mais aussi redoutable en matière de soft power, parce que finalement, ça devient un outil d'information, et notamment d'information massive auprès de la jeunesse.
Ce que décrit Julien Pillot ici, c'est l'incroyable force de frappe de ce réseau social. C'est la plateforme la plus puissante du moment qui compte près de 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. En France, c'est 15 millions d'utilisateurs. Et une étude récente a montré qu'aux États-Unis, TikTok est en passe de dépasser Netflix. Et pour les jeunes générations, il remplacerait même Google Search.
Alors tout ça, c'est bien beau Stéphanie, mais quel est le rapport avec les livres ?
Eh bien justement, Emmanuel, on écoute encore Julien Pillot.
TikTok devient un canal d'information, en plus d'être un lieu d'amusement, et finalement crée énormément d'engagement. Et les entreprises, et notamment celles du divertissement, celles de la culture, ne font pas exception. Elles se sont dit, peut-être qu'aujourd'hui, pour pouvoir communiquer auprès d'une certaine frange de la population, et notamment la plus jeune, il est important de créer du contenu ou de se faire quelque part relayer par des créateurs de contenu qui sont des influenceurs, de façon à pouvoir pénétrer davantage cette population qui est déjà un marché aujourd'hui, mais qui est surtout le consommateur de contenu culturel de demain. Donc, il n'est pas du tout étonnant aujourd'hui que les acteurs des industries créatives et culturelles, on va les appeler ainsi, lorgnent, plus que lorgnent d'ailleurs, du côté de TikTok.
Résultat, la majorité des maisons d'édition ont intégré TikTok dans leur stratégie marketing. D'abord, elles se sont créées un compte sur le réseau social, sur lequel elles publient des contenus qui sont parfois assez suivis, comme ceux de Hachette Roman en France, où la chargée de com se met en scène, comme le font les autres TikTokers. Certains éditeurs ont même créé des concours sur TikTok pour recruter des nouveaux auteurs, comme l'a fait en février dernier la maison Robert Laffont. Les maisons d'édition ne vont pas qu'être sur la plateforme pour essayer de suivre les tendances ou de les influencer. Elles vont aussi conclure des partenariats directement avec TikTok, comme l'a fait Penguin Random House, une des plus grandes maisons d'édition américaines. Et certaines vont aussi conclure des contrats avec des influenceurs pour que ces derniers mettent en avant les livres qu'elles éditent. On écoute Louis Villard.
Effectivement, les maisons d'édition travaillent avec les influenceurs du livre. Et elles envoient des services de presse, elles peuvent sponsoriser des vidéos, elles peuvent effectuer du placement de produits. Elles peuvent aussi organiser des jeux et des concours avec ces influenceurs du livre. Elles peuvent enfin leur envoyer des box littéraires, c'est-à-dire des colis que ces personnes vont déballer et ils vont pour se filmer en train de déballer ces colis et présenter à l'écran les différents livres qui sont dans ces colis. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a des implications tout simplement sur l'organisation de l'activité éditoriale. Il faut que la couverture soit aujourd'hui instagrammable pour qu'elle puisse faire l'objet de manière aisée de ce type de publication sur les réseaux sociaux.
Les librairies, de leur côté, ont elles aussi intégré TikTok dans leur stratégie de vente. Elles ont créé des rayons en magasin vus sur TikTok et des onglets spécifiques à BookTok dans leur site en ligne. Les librairies de Citre ont par exemple sur leur site une rubrique « Les livres qui buzzent sur TikTok ». C'est aussi le cas de Cultura qui propose une rubrique « L'univers BookTok » divisée en quatre parties « BookTok Romance »,« BookTok Manga »,« BookTok Fantasy » et « BookTok Thriller ». Il y aurait ici un processus de substitution, c'est-à-dire que la recommandation qui est mise en avant, ce n'est plus celle du libraire, c'est celle du TikToker, du BookToker. De l'autre côté, TikTok investit aussi beaucoup dans le livre. Il est par exemple le partenaire officiel du Salon du Livre de Paris de 2023. Il l'a été pour la Foire du Livre de Francfort en octobre 2022. C'est le plus grand salon au monde consacré à la littérature. En France, il a aussi financé une campagne de communication importante qui s'intitule TikTok, une fenêtre sur le monde et qui a été diffusée pendant un mois au cinéma et à la télévision avec la participation d'Augustin Trapenard, le présentateur de la grande librairie qui est l'émission littéraire française phare. Le réseau social a aussi créé le TikTok Book Club qui met en avant tous les mois un livre. Et à côté de ça, la plateforme a aussi créé des possibilités pour les créateurs de contenu d'être rémunérés avec un fonds, ce qui va permettre à certains de toucher un peu de sous et donc d'être incité à créer d'autres vidéos.
Mais quel intérêt pour TikTok d'investir dans ce type de programme ?
Alors, pour TikTok, qui est sous le feu des projecteurs depuis des mois et qui est en passe d'être interdit aux États-Unis, ça lui donne évidemment une bonne image. D'autant qu'à côté des accusations d'espionnage qui décrivent TikTok comme un cheval de Troie du Parti communiste chinois, on lui a aussi reproché de crétiniser les adolescents occidentaux. Notamment parce que TikTok a deux faces, Douyin, la version du réseau social pour le marché chinois avec des contenus plus intellectuels et TikTok pour les occidentaux avec des contenus plus basés sur le divertissement. On écoute Julien Pillaud.
Le contenu tel qu'il est proposé aux petits chinois est un contenu qui est très surveillé. Donc évidemment à des fins de propagande, de façon à gommer tous les contenus qui n'iraient pas dans le sens finalement de ce que le Parti communiste chinois veut faire passer comme message informatif, évidemment, mais il y a aussi un côté instruisez-vous grâce à TikTok. Faites d'abord la promotion de contenu à haut niveau informatif et à haut niveau culturel. Tandis que la version TikTok sur la partie occidentale est nettement plus libérale d'une certaine façon, nettement plus axée sur le divertissement. Et il ne faudrait pas être trop abrupte dans les conclusions qu'on pourrait, donner, mais on pourrait aussi penser, et il ne serait pas complètement farfelu au fait de penser ça, que cette situation est complètement voulue par le gouvernement chinois, dans la mesure où il cherche à imposer dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, finalement, des cerveaux qui vont être capables de gagner la bataille intellectuelle du XXIe siècle. Et là, je peux vous faire un petit clin d'œil vers des ouvrages tels que la fabrique du crétin numérique ou ce genre de choses, qui tirent la sonnette d'alarme sur, finalement, le côté à la fois très émancipateur que peut avoir le numérique, d'une certaine façon, parce que ça ouvre la voie à des trésors de connaissances et d'ingéniosité, mais aussi lorsqu'il est mal utilisé ou lorsqu'il est détourné par des entreprises qui savent pertinemment comment vous enfermer dans des modèles cognitifs parfaitement conçus et à dessein, qui peuvent aussi vous faire tomber dans une sorte d'idiocratie qui ne dirait pas son nom. Voilà, pour moi, les dangers de TikTok dans les prochaines années se situent à ce niveau-là.
Pour TikTok, c'est donc du pain béni. Voilà un hashtag, BookTok, pour le coup qui fait référence au livre, qui vient contrebalancer cette accusation d'abrutissement de la jeunesse, des utilisatrices et utilisateurs.
Et pour les maisons d'édition, j'imagine que c'est aussi du pain béni.
Évidemment, imaginez, avant BookTok, à quel moment est-ce qu'on pouvait observer un pic des ventes d'un livre? À sa sortie, lorsque le livre est primé, on pense au prix Goncourt, Renaudot, Femina. On peut aussi avoir des hausses de ventes si le livre est adapté en film ou en série Netflix. Mais avec TikTok, on a un réseau capable de propulser les ventes de livres sortis il y a des années. Et pour l'industrie du livre, dont les ventes pour le marché français avaient plus tendance à baisser ou à stagner depuis une quinzaine d'années, sauf pour 2021 considérée comme une année exceptionnelle du fait du confinement, c'est évidemment très positif. En plus, TikTok va leur permettre de toucher un public jeune qui désertait les rayons des librairies et qui sont en plus les clients de demain.
Et depuis le début, on n'a pas parlé des influenceurs. Qu'est-ce qu'ils gagnent, eux, à publier des contenus sous la bannière BookTok ?
Les influenceurs créent des contenus qui les passionnent, mais peu parviennent à en faire leur gagne-pain. Une étude de l'agence Reach montrait qu'en 2020, seuls 6% des influenceurs, toutes thématiques confondues, gagnaient plus de 20 000 euros par an. En 2021, seulement 15% d'entre eux arrivaient à vivre de leur activité, sans travailler à côté. Donc la très grande majorité d'entre eux ne gagnent pas leur vie en faisant des vidéos sur TikTok.
Alors, puisque tu parles d'études, est-ce que des chercheurs ont montré que les recommandations de TikTokers ont fait décoller les ventes de certains ouvrages?
Alors non, Emmanuel, il n'y a pas eu pour l'instant de grandes études sur ce phénomène. Mais on a quand même plusieurs indices qui montrent que oui, ça fait décoller les ventes, notamment parce que les lectrices et les lecteurs qui sont sur TikTok recherchent un certain type de littérature. Et d'ailleurs, ça a eu le mérite de mettre sur le devant de la scène des genres qui étaient parfois mis de côté, voire dénigrés par une partie des critiques littéraires traditionnelles. Déjà, ces ventes boostées concernent la littérature de genre, la littérature jeune adulte, la romance, la science-fiction, la fantasy, le fantastique et tout ce qui est manga. On l'a dit au début, il y a eu plusieurs livres qui ont eu du succès des années après leur sortie grâce à TikTok. On a évoqué Madeline Miller, mais il y a l'autrice Colleen Hoover qui était quasi inconnue et qui vend désormais plus de livres que Stephen King. En 2022, 7 des 15 livres figurant sur la liste des best-sellers du New York Times doivent leur audience à TikTok.
Mais est-ce qu'une étude d'envergure a été faite sur le sujet ?
Pas encore, même si on peut quand même évoquer trois enquêtes. La première a été faite au Canada en septembre 2022 par une société qui s'appelle BookNet. Elle a estimé, en se basant sur les 20 livres les plus plébiscités sur TikTok Canada, que le fait d'être recommandé avait fait booster les ventes de 1047% en moyenne. Une autre étude, cette fois faite au Royaume-Uni par l'Association des éditeurs britanniques et qui date d'octobre 2022, montre que les booktokers influencent considérablement les choix de lecture des jeunes âgés de 16 à 25 ans, puisque plus de la moitié des 2000 personnes interrogées ont expliqué qu'ils allaient bien sur TikTok pour trouver des conseils sur des livres. Et 68% d'entre eux estiment même que BookTok les a incités à lire un livre qu'ils n'auraient jamais pensé ouvrir un jour. En France, on a une étude Ipsos pour le Centre National du Livre qui date de mars 2022 sur la lecture et les jeunes, qui indique aussi que les réseaux sociaux sont les nouveaux prescripteurs de la lecture. Près d'un tiers des personnes interrogées ont par exemple expliqué qu'ils choisissaient un livre après en avoir entendu parler sur Internet. Mais dans l'Hexagone, l'influence de TikTok serait à relativiser parce que la plateforme est seulement le troisième réseau social sur lequel les jeunes s'informent pour les livres derrière YouTube et Instagram. Mais cette étude a un an, les choses ont certainement bougé depuis mars 2022.
Est-ce que TikTok aurait finalement un effet limité ?
Peut-être, car il existe aussi beaucoup de contre-exemples de recommandations qui n'ont pas marché. Les éditeurs ont d'ailleurs expliqué que payer un influenceur pour que celui-ci recommande un livre n'est absolument pas gage de succès commercial. Dans la presse, on a par exemple pu lire que la mise en avant de La Maison des Feuilles de Marc Danielski n'a pas vraiment eu d'effet sur les ventes du livre. Même chose pour les poésies d'amour de Rainer Maria Rilke. Donc, c'est pas automatique. Certains pensent même qu'il s'agirait d'un simple effet du star system. Ça, c'est Louis Villard qui me l'a expliqué.
Il me semble que TikTok fonctionne comme une caisse de résonance. C'est-à-dire que ces livres qui ont du succès sur TikTok, derrière, ils vont aussi générer un bouche à oreille. Ils vont être commentés dans les médias, ils vont être recommandés en librairie. Les libraires vont aussi créer des rubriques, des petits encarts. Voici les livres qui buzzent sur TikTok. Et tout ça, ensemble, va construire le succès du livre. Et je pense que voilà, il y a vraiment cet effet caisse de résonance sur TikTok qui permet de booster le succès littéraire de certains titres.
Pour booster des ventes, certaines maisons d'édition paient des influenceurs. Je me suis aussi demandé si un contenu présenté comme sponsorisé avait autant d'impact pour l'utilisateur que celui qui est présenté comme 100% spontané. Normalement, la loi française impose que les choses soient parfaitement claires. Une vidéo sponsorisée payée par une maison d'édition doit être bien estampillée comme étant sponsorisée. Mais dans les faits, ça peut être indiqué dans les hashtags, dans les descriptifs des vidéos. On peut se demander dans quelle mesure un utilisateur de TikTok qui scrolle des vidéos va regarder le détail des descriptifs des vidéos ou des hashtags.
Et le fait de désigner un contenu comme étant sponsorisé, est-ce que ça ne décrédibilise pas un influenceur ? Ça pourrait le rendre moins efficace ?
Pour répondre à cette question, je me suis tournée vers Florence Eusebi. Elle est enseignante chercheuse à La Rochelle et elle vient justement de copublier un article de recherche à ce sujet. Et elle m'a expliqué que la divulgation, le fait de déclarer qu'un contenu est sponsorisé, rend la recommandation d'un influenceur globalement moins efficace, sauf dans certaines situations. On l'écoute.
Certains travaux montrent que la divulgation va être efficace pour protéger le consommateur en diminuant les intentions comportementales du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur perçoit que c'est une publicité, il reconnaît le caractère commercial de la publication et donc ça va avoir une incidence négative sur son intention, suivre la recommandation ou même son attitude vis-à-vis de la marque. Mais d'autres recherches montrent aussi qu'il n'y a pas d'effet de la divulgation sur les intentions et d'autres montrent également qu'il y a des effets positifs pour la marque. Alors donc les travaux sont pas ne vont pas tous dans le même sens. L'un des apports de notre travail, c'était de regarder en quoi la popularité de l'influenceur pouvait avoir un effet justement sur cette divulgation publicitaire.
Et ce que m'a montré Florence Eusebi, c'est que si un influenceur a peu de followers, le fait de dire qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé va, pour le coup, rendre sa recommandation peu efficace. Si, par contre, il s'agit d'un influenceur qui est très suivi, l'étiquette sponsorisée va finalement avoir moins d'impact négatif sur la recommandation. D'où l'objectif pour les maisons d'édition d'arriver à faire de la pub sans faire de la pub pour ne pas décrédibiliser l'influenceur. Louis Villard.
Il faut arriver à nouer des liens avec ces influenceurs du livre, pour que ces influenceurs du livre parlent de vos dernières publications, sans que le lien promotionnel, sans que la forme promotionnelle ne soit excessivement visible. Il faut en quelque sorte dépublicitariser le contenu. C'est une terminologie qu'on utilise, que des chercheuses du CEMSA ont théorisé, la dépublicitarisation, le fait de privilégier des formes de communication dans lesquelles la dimension commerciale est en fait euphémisé, mais qui fondamentalement reste de la publicité. Donc ça, pour les maisons d'édition, ce qui va les intéresser en travaillant avec ces influenceurs du livre, c'est cette authenticité que ces personnes arrivent à incarner. Et en même temps, c'est très difficile aussi pour ces influenceurs du livre parce que eux, ils construisent leur succès, leur notoriété et leur audience sur cette image d'authenticité. Ce sont en quelque sorte des experts de l'authenticité. C'est une auteure qui s'appelle Marie Dauchesne qui à théoriser cette notion que je trouve assez parlante, des experts de l'authenticité. C'est-à-dire que ils ont construit finalement leur image sur le fait que ce sont des personnes ordinaires et leur audience sur le fait que ce sont des personnes ordinaires. Et en même temps, à mesure qu'ils entrent dans des partenariats commerciaux avec différentes entreprises, y compris des maisons d'édition, eh bien, ils quittent un peu leur fonction de personne ordinaire.
Toute la difficulté du booktalker va donc être de trouver un équilibre entre authenticité et partenariat. Et pour TikTok, c'est la même chose. Si son succès repose sur la magie de son algorithme, le fait qu'il vienne modifier la donne en passant des partenariats qui vont mettre en avant tel roman ou telle maison d'édition au détriment de ce qu'aurait prévu l'algorithme peut donner l'impression que les dés sont pipés.
Merci Stéphanie. À l'avenir, il faudra continuer à suivre de près l'influence de TikTok sur le monde du livre et sur le monde tout court. Et je retiens qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir l'air authentique, naturel et spontané quand on fait de la pub sans le dire. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Stéphanie Bascou, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Essem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Acmi.